Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Jusqu'à midi et demi, la télé à la radio sur RTL avec d'abord une énigme pour commencer cette émission. Quel point commun entre Simone Signoret, Yves Montand et Love Story? A priori, aucun. Et pourtant, si, il y en a un. Notre invité du jour venu nous parler du 100e anniversaire de la naissance de ce duo mythique, mais aussi des 20 ans du Loft.
Petit indice supplémentaire, il a également présenté Secret Story, qu'il aurait aussi pu faire comme candidat, vu l'incroyable secret qu'il avait révélé à Jean-Luc Reichmann.
Et quand tu commences une émission, quelque chose,
c'est le même slip depuis 11 ans.
Le même slip depuis 11 ans, quand même.
Je mets le même et je mets toujours en fait ma chemise à l'intérieur du slip, que je tire de chaque côté.
Bonjour Benjamin Castaldi.
Bonjour.
On sait accueillir nos invités.
C'est bien.
Vous imaginez ma première question, ouais. Est-ce que vous êtes venu ce matin avec ce fameux slip porte-bonheur?
Non, mais là je crois qu'il est troué maintenant.
C'était 2004 ça déjà.
C'est vrai que j'avais ça et le déodorant. Je mettais toujours le même déodorant.
Alors ça c'est sympa pour les autres.
C'était un déodorant pich comme ça. Et c'est vrai que je mettais tout le temps le même slip, ouais. Et en tout cas le slip que j'ai porté sur le loft, je l'ai longtemps mis après.
C'est quoi longtemps?
C'est combien d'années?
Non, c'est 3-4 ans, quoi.
Ah, 3-4 ans. Ah oui, on imagine. Non, c'était pas grand.
Il était usé aux fesses.
Benjamin Castaldi, merci beaucoup d'être avec nous pour parler pas seulement de slip ce matin, mais aussi de télé, bien sûr, et également d'un livre que vous publiez mercredi prochain aux éditions du Rocher. Je vous ai tant aimé. Déclaration que vous faites à votre grand-mère, Simone Signoret et Yves Montand, dans ce qui est une biographie croisée, on peut dire ça comme ça?
Ah, c'est exactement ça. C'est un énorme travail qu'on a fait pendant plusieurs mois avec Frédéric Masseau. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des dizaines d'interviews filmées de mes grands-parents. Et surtout de ma grand-mère. Et en fait, on les a réunis un peu ensemble parce que mine de rien, l'un et l'autre, ils ont fait leur bio, mais c'était leur histoire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ça vous fait rigoler, mais mon temps, quand ma grand-mère avait sorti La Nostalgie, il avait quand même un peu reproché, lui dit, écoutez, gentil, ton succès, c'est un peu le mien quand même. Ce qui n'était pas complètement faux.
Et ouais, tu aurais pu parler de moi.
Parler de lui, évidemment. Mais c'est vrai que je trouve que l'un et l'autre sont finalement totalement indissociables.
Ce livre, on va y revenir, mais tout de suite, question qui nous ramène à la télé. D'après vous, quel regard Montand et Signoret auraient eu sur votre parcours télé, Benjamin Castaldi? Vous imaginez un dialogue à un moment donné, justement, avec Simone Signoret?
En fait, c'est la fin du livre où j'imaginais un dialogue fictif entre mes grands-parents. Honnêtement, ce qui est amusant, c'est que je me dis, s'ils n'avaient pas eu la mauvaise idée de mourir si jeune, ma vie aurait été forcément différente.
Les choix télé aussi, vous auriez peut-être pas fait les mêmes émissions.
Mais tout, j'aurais certainement fait des brillantes études, j'aurais pas abandonné en route, j'aurais été au bout de mon idée de présenter Sciences Po, j'aurais essayé de devenir un journaliste brillant, intellectuel, et pas le présentateur d'une émission conspuée par la moitié de Paris.
Vous auriez craint son regard, par exemple, de Simone Signoret sur l'acceptation du Loft?
Je pense que j'aurais jamais osé, surtout.
Ah ouais?
Tout ça, je n'aurais pas pu le faire, donc c'est dans un sens, la vie a été très différente parce qu'ils sont partis un peu trop tôt.
Je vous ai tant aimé, Montand Signoret, un couple dans l'histoire. Ça sort la semaine prochaine aux éditions du Rocher. Et on vous l'offre, chers auditeurs, dédicacé par Benjamin Castaldi sur le compte Twitter dont refait la télé.
À notre tour maintenant de dresser votre biographie télévisée, Benjamin.
Archive ou archifaux?
Vous vous souvenez que vous avez animé sur M6 une émission qui s'appelait Mémoire le Grand Est?
Ah oui, j'ai adoré.
Et bien cette fois...
C'était pas cuit le Grand Est plutôt?
Ah, il y a eu mémoire aussi. Vous voyez, vous avez des problèmes de mémoire. Ce qui nous arrange avec la séquence qui vient, parce que justement, votre mémoire, on va la tester. On va affirmer des choses à votre sujet à la télévision. Si vous pensez que ce que l'on affirme est vrai, vous nous dites archive. Sinon, vous nous dites archifaux.
D'accord.
J'ai compris.
Alors, vous êtes...
débile.
Non.
Non, mais on a eu des problèmes parfois.
On a déjà eu des problèmes.
Ça va, c'est pas non plus. Okay. Ça va, c'est pas...
Oui, enfin, que vous dites. On vous dira.
Allez-y.
Si je vous dis que nous avons retrouvé des images télé dans lesquelles vous jouez au foot avec Zidane, archive ou archifaux?
Je crois que c'est archive, mais je crois que je lui ai pas poignardé la cuisse.
C'est ça. Je n'avais pas joué au foot avec lui. En revanche, je vous l'avais poignardé lors d'une émission de télé.
Racontez-nous ça. Quelle
horreur.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une soirée hélas sur TF1.
Alors, je suis avec mon camarade Jean-Pierre Foucault, et on doit faire une séquence où on doit faire croire à Zidane que Jean-Pierre Foucault est un lanceur de couteaux. Et il se met donc en face de Zidane, et il prend les couteaux, et on bande les yeux de Zidane, et en fait, quand il fait... il fait croire qu'il lance le couteau et moi je suis à côté de Zidane et avec un couteau je crève les ballons.
Oui.
Je plante les couteaux. Sauf que je lui ai planté la cuisse.
Mais c'est pas possible.
Mais et je lui plante la cuisse et en plus sur le moment je dis non mais c'est, ça va et en fait il avait 5-6 points de suture. C'est-à-dire que j'ai niqué la jambe d'un mec qui pesait je sais pas combien de millions d'euros à l'époque.
Oui parce que les jambes ça lui sert un peu.
Parce que
ça.
Les jambes c'est ouais. utile pour un footballeur.
Il vous a pas mis de coup de boule en retour.
Non mais vraiment tu exagères.
Allez, dernier archive ou archifo.
À cause de vous, votre père, Jean-Pierre Castaldi, a piqué une colère noire à la télé. Archive ou archifo.
Alors écoutez, mon père piquant une colère, ça c'est rare. Mon père piquant une colère, j'ai envie de dire, c'est forcément une archive.
C'est un peu courant. Oui, en effet. Vous l'aviez piégé pour une caméra cachée diffusée sur C8 en lui faisant croire que vous aviez été victime d'une erreur médicale.
Ah oui, t'es pas content.
On rappelle le scénario, c'est une opération des sinus qui tourne mal, vous avez le visage gonflé. Et ça gonfle aussi Jean-Pierre Castaldi qui va légèrement recadrer le faux chirurgien.
Monsieur, ce sont des informations confidentielles, vous n'avez pas le droit de le dire. Monsieur, ça fait 8 ans que je travaille.
Sors d'ici.
C'est normal.
Tu vas dégager la gueule. Tu vas sortir d'ici. Vous allez chercher un responsable et vous revenez pas avec votre panneau ridicule. Prenez le chef de clinique et ne revenez pas sans lui.
Il a eu chaud, hein, ce comédien, on va dire. Hein. Il aurait pu finir le visage gonflé.
Bah, mon père aussi, il est très, très sanguin. Mais vous savez, quand Israël l'a piégé.
On n'est pas passé loin de la claque.
Si mon père il a 5 ans de moins ou 6 ans de moins, je pense que Israël. Il le fracasse.
Mais alors pourquoi vous lui faites ça? Vous savez très bien qu'il démarre au quart de tour, vous êtes sadique.
D'autant que c'était la deuxième fois.
Ouais.
Parce qu'on l'avait déjà piégé précédemment avec.
Ça marche à tous les coups.
Avec Delormeau, où là je ne pensais pas, on avait été tellement loin, je devais venir à la maison pour dire que j'allais quitter ma femme Aurore pour faire mon coming out avec Mathieu Delormeau. Et en fait, et à l'époque, je m'étais teint les cheveux en blond, donc bon, j'avais une apparence assez différente, quoi. Et je me suis dit, mais mon père ne gobera jamais cette histoire. Et en fait, il a marché, il était tellement malheureux. Pour ma femme, tu te rends compte, tu viens de l'épouser et tu m'annonces que tu te barres. Et avec un mec en plus. Et alors pour vous donner un scoop, c'est qu'en fait, il a fait un malaise.
À ce point-là?
Ah oui, non, mais on a arrêté la caméra cachée, on l'a terminé après. Donc les 5 dernières minutes sont jouées parce que. Mais il a fait un malaise. C'est-à-dire qu'il est. Il est...
Puis il était. Vous avez failli tuer votre père en fait, vous rendez compte?
Et moi je crois, quand il me fait le malaise, je crois qu'en fait, que c'est l'arroseur arrosé. Qu'il est en train de me faire croire qu'il
a une caméra cachée, donc vous êtes victime.
Moi je dis, c'est bon papa, c'est bon, allez. Mais et je dis, mais à la régie, je dis, dites-moi, il est en train de crever ou c'est prévu dans le scénario? Mais faut que je fasse gaffe, comme il a quand même 77 ans, papy là.
Jean-Pierre Castaldi, il vous en veut toujours de lui avoir conseillé de participer à Première Compagnie?
Il m'en a jamais voulu. Moi, je ne mesurais pas à quel point il allait le payer cher.
Ah, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on lui a proposé beaucoup moins de rôles.
Pas beaucoup moins. Il a disparu des radars.
C'est-à-dire le métier lui a tourné le dos.
Ah bien sûr. Il a ramé, il rame encore. Enfin maintenant il a la chance de jouer au théâtre, parce que pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais oui, ça il a payé très 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 cher.
Et pour ça, vous êtes pas fait engueuler. Là, il est pas monté dans les tours.
Non parce que il était content de le faire. C'était très bien payé. Voilà.
Ça valait le coup d'accepter ce cachet. Ça compensait?
Non, ça compensait pas tout. Ça compensait pas tout.
Allez, après votre papa, on va maintenant parler de votre grand-mère, Simone Signoret, son indissociable Yves Montand. Ils auraient eu 100 ans cette année.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard. Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Congratulations to those 5 talented ladies nominated for best performance by an actress. Doris Day, Audrey Hepburn, Catherine Hepburn, Simone Signoret, and Elizabeth Taylor. Simone Signoret, room at the top!
I can't say anything. Oh, I thank you. You can't imagine what it is for me being French.
Ah ouais.
La joie de Simone Signoret, sacrée meilleure actrice sur la scène des Oscars en 1960, belle année. Un épisode sur lequel vous revenez dans votre livre, Benjamin Castaldi.
Parce que c'est une soirée de consécration pour elle, mais aussi pour lui, parce que Yves Montand a également triomphé sur cette même scène des Oscars quelques minutes plus tôt.
Je ne le savais pas, il a chanté deux fois dans mon histoire ou dans ma mémoire. Ma grand-mère était finalement seule pour cette cérémonie, et pas du tout. Aller avec son mari qui sont deux fois
et qui l'accueille en sortie de scène.
Absolument.
On imagine le moment d'émotion. Pour elle, la petite fille de Neuilly, lui, le petit gars de Marseille, ils sont devenus des stars mondiales.
Ils sont arrivés au summum de tout. de la carrière, de la reconnaissance, de la consécration, du prix. Lui, il tourne avec Marilyn dans un film américain et à l'époque, il a un cachet de 1 million de dollars. Oui. Si vous aviez, je sais pas, 100 millions aujourd'hui d'euros. Et tout va mal tourner, mais c'est incroyable, c'est incroyable.
Vous évoquez aussi les dernières années de votre grand-mère, sa maladie, quand des fouilles merde, pour vous citer, planquent devant la maison d'Auteuil.
Oui, ouais, j'aurais pas dû dire des fouilles merde, mais non, mais c'est vrai. En même temps, ils cherchaient la photo le moment où elle allait sortir les pieds devant, qu'ils n'ont pas eu d'ailleurs, ou peut-être qu'ils ont eu, je ne sais plus.
Vous êtes ado, c'est votre premier contact avec les paparazzi, Benjamin Castaldi, pas le dernier, on va dire.
Non,
parce que
même bien les paparazzi.
Vous non plus, les paparazzi vous ont pas épargné. Hein. Ils sont parfois allés très loin avec vous.
Moi, je les ai eu aux fesses très longtemps, mais en fait, maintenant, avec le recul, je pense que j'ai fait une bêtise, c'est que. Je devais être mal conseillé à l'époque parce que de toute façon aujourd'hui on partage tout. Alors moi, ça, vous voyez bien. Alors moi ou les autres, même les grandes stars, elles sont sur les réseaux, elles vous montrent leurs chaussures qu'elles viennent d'acheter, le pied de leur fils. Bon. Donc c'est totalement hypocrite tout ça. On s'est fait tout un monde. Hein, ouais, ils viennent me voler ma vie, mais finalement aujourd'hui maintenant, on met tous notre vie du matin au soir sur les réseaux.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui vous n'en avez plus rien à faire si vous êtes paparazzi?
Ouais, je m'en fous, a priori. D'abord, c'est la règle du jeu. Et tant qu'on vous montre pas dans une situation. Alors, si, quand c'est dans une situation un peu. Moi, j'ai eu des paparazzes qui m'ont fait du mal parce que elles insinuaient quelque chose qui était sale. Quand moi, j'ai eu une de Voici, je crois, où ils ont fait. Je suis en train de porter mon fils par les. Enzo, je le tiens par le pied, comme ça. Et avant, ils me prennent une photo de moi en train de boire un verre de rosé. Ils insinuent que je suis complètement bourré et que je suis en train de secouer mon fils par les pieds. Bon, ça fait mal.
Votre réaction à ce moment-là, parce que vous êtes un Castaldi, donc
là,
assez
j'ai
sanguin.
J'ai envie de tout casser, là. Là, j'ai envie de tout casser. J'ai dû casser quelque chose, d'ailleurs.
Donc, ça veut dire quand même qu'au quotidien, on doit faire gaffe.
Non, mais moi, c'est vrai que je faisais gaffe. J'allais pas en boîte de nuit. Dès qu'il y avait les téléphones portables, c'est un peu une plaie. J'étais méfiant. Une fois, j'ai fait le con. J'étais en forme, quoi. J'ai fini torse nu sur une piste de danse. Évidemment, la photo est sortie. Bon, c'est malheureux. Il y a des choses qu'on ne fait pas, oui. Mais après, faut pas se plaindre, quoi. Voilà.
Je vous ai tant aimé aux éditions du Rocher, un bel hommage pour ces deux légendes du cinéma qui auraient eu 100 ans cette année. On va maintenant parler d'un autre anniversaire qui vous concerne directement, ouais. Benjamin Castaldi. En avril, ce sera les 20 ans de Love Story.
11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24/24 par 26 caméras et 50 micros.
6 garçons, 5 filles qui ne se connaissent absolument pas vont vivre ensemble totalement coupés et isolés du monde extérieur pendant 70 jours dans une maison qu'on va découvrir maintenant. Alors là, c'est le jardin, la piscine, le poulailler.
Ah, la piscine, on a beaucoup parlé de cette fameuse piscine.
Ah, oui.
Ah, ça.
26 avril 2001, M6 invente donc le confinement avant l'heure avec Love Story. 11 célibataires coupés du monde, vous coupez du monde, vous ne l'êtes pas du tout, Benjamin Castaldi, vous êtes même en première ligne. Cette émission, on l'a dit, elle déchaîne les passions. Vous faites pas que des amis à l'époque, hein. Vous recevez même des menaces de mort.
Oh, genre, on a oublié, devant M6, les gens venaient déverser leur poubelle quand même. On a oublié ça. Ils venaient déverser leurs poubelles devant M6. Non, ça a été un déferlement. Je crois que la revue de presse du Love, elle fait 15 mètres de haut.
Non. Le nombre d'articles publiés, c'était hallucinant.
Mais on a fait la une de tout. On a fait la une, mais c'était au-delà des canards de télé.
Vous avez dû prendre des gardes du corps à un moment donné.
Bah, quand vous recevez une balle dans une enveloppe, des capotes usagées, on sait où t'habites, on connaît tes itinéraires, on va te buter. Enfin, au bout d'un moment, faut faire attention quand même.
À l'époque, vous étiez au camp des magouilles de la production ou pas?
Je sais pas s'il y a eu des magouilles.
Vous l'avez dit, hein.
Non, mais
on arrêtait de comptabiliser les votes quand on avait le résultat souhaité. Ça ressemble un peu à une magouille,
ça c'est Loft 2. C'est Loft 2, effectivement, le Loft 2, on s'est pris les pieds dans le tapis, mais ça a été raté complètement, d'ailleurs.
Mais le principe, c'était quoi? C'était de geler les votes, en fait, quand on avait le résultat souhaité?
La carambouille qu'on a faite, c'était que on voulait pas perdre des candidats, et il y avait notamment une candidate qui était, je crois, la foraine, et on a donc lancé les votes, et quand elle est passée devant à 21h12, on a coupé les votes. Et moi, je l'ai appris parce que j'ai un copain à moi qui m'appelle, qui me dit « Bah, vous avez coupé les votes, vous êtes con ou quoi ?» Je dis, on a coupé les votes. Et en fait, ces couillons, au lieu de mettre suite à un trop gros nombre d'appels, veuillez recommencer, il dit, les votes sont clos.
Ça a été la même chose après avec Secret Story ou pas?
Non, c'était plus possible. Parce que justement, après, sur Secret Story, les votes étaient ouverts par Lucie et fermés vers Lucie. Après, on va pas se mentir, c'est très facile de faire un montage. Si vous, si y a un candidat qui vous dérange, il disparaît toute la semaine de des quotidiennes. Vous verrez qu'à l'arrivée,
il est pas très favorisé.
Vous verrez que le vote, il sera, tu vois.
Donc vous reconnaissez quand même que tout ça est un peu cousu de fil blanc.
On s'est foutu un peu de la gueule du monde, ouais.
Mmh. Ah, vous le reconnaissez?
Oui, oui. Sur Secret, de temps en temps, oui.
Alors, 20 ans après le lancement de Love Story, que nous reste-t-il de cette émission? Eh bien, ces magnifiques phrases.
T-H-Y-M, c'est quoi du
c'est du teen.
Mais carrément.
C'est j'imagine par rapport à sa famille.
Que tu les emmerdes déjà les gens.
Ah oui,
avec un grand A.
C'est ingénu. J'ai ingénu, il y a génie.
Il y a génie.
Et un, c'est le contraire, non? Et après, ingénieur. Ouais, après, il y a le mot dans ingénieur.
Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est être intelligent.
Mais peut-être que t'as raison, on va regarder dans
le
dictionnaire.
Le play, il a parti.
Et le Becherel, lui, il a pas venu. Voyez,
le Becherel, il est venu. Ça, c'était un festival. Hein.
Alors, on se souvient que les candidats du Loft avaient été très vite starisés. Mais vous, ce qualificatif pour des candidats de télé-réalité, ça vous ulcère. Ça, vous n'aimez pas ça.
Ah bah non, mais c'est déjà le mot star est tellement galvaudé du matin au soir. Des mecs qui ont 2 millions de followers, c'est des stars maintenant. Donc, parce qu'ils montent des trucs pour se faire blanchir les dents.
Vous avez un peu créé le monstre avec le Loft. Hein. Ouais. Tout le monde veut son quart d'heure de célébrité, c'est un peu ça, les réseaux sociaux.
Oui, mais c'est ça. Oui, mais être célèbre, c'est pas forcément être star. Une star, pour moi, c'est Sophie Marceau, Belmondo, Jean Dujardin.
Ah, Simone Signoret, Yves Montand, vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Je vous cite, hein. Je laisse à mes collègues la faiblesse de croire qu'ils sont des stars, avec leurs voitures très chères, leurs vacances dans des 5 étoiles et leurs bouteilles de champagne. Je suis passé par là. C'était à l'époque où je voulais ressembler à Montand, mais sans l'essentiel.
Oui, bien sûr. Mais oui, mais c'est pas ça être star. Voilà, c'est pas parce qu'on roule dans une grosse voiture et qu'on a un jet privé et qu'on dépense 200 000 euros la semaine de vacances qu'on est une star.
Comment vous pourriez décrire le Benjamin Cassali de ces années Loft, puis Secret Story, flambeur, frimeur?
Alors, on m'a pris pour un frimeur. C'est que j'ai tellement été obnubilé par la réussite de Montand et parce que j'avais vu avec lui, que je n'ai eu de cesse que d'essayer de le récupérer. Donc la meilleure façon de récupérer ce que vous avez vu, quand c'est Yves Montand qui roule en Ferrari, c'est d'acheter une Ferrari. Et en fait, je me suis rendu compte un peu tard que c'était pas ça qui vous rendait heureux, parce qu'en fait, je me souviens très bien, je suis arrivé une fois chez ma mère en Ferrari, en me disant « Ouais, elle va être super fière de son fils parce qu'il arrive en Ferrari ». J'ai pris un vent quand même.
Et à cette époque-là, vous gagnez beaucoup d'argent aussi, il faut le dire. J'ai lu entre 1 et 2 millions d'euros par an, c'est vrai?
Ouais, entre 1 et 2 millions d'euros par an. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2-3 ans. Ouais.
C'était l'époque Secret Story, ça?
C'est l'époque où j'ai signé avec TF1. J'ai gagné très bien ma vie entre 2009 et 2011, quoi.
Ça veut dire combien par prime, par exemple, de Secret Story?
Non, mais c'était un forfait, Secret Story. C'était autour de, je sais pas, ça oscillait entre 400 000 et 600 000, 650 000 euros par saison.
Des tarifs d'un autre temps.
Non, mais c'est pareil aujourd'hui. Hein,
c'est le même tarif aujourd'hui,
sur The Voice, le jury qui fait 20 primes, il prend 600 000 euros, hein. Nico, s'il prend 27 500 euros par prime, il en fait 20, faites le calcul, c'est pareil. Hein.
C'est précis, vous avez sa fiche de paie.
Non, mais bon, sur TF1, on sait qu'un prime, c'est entre 20 000 et 30 000 euros hors taxe. C'est un secret de polichinelle. Sur un jeu quotidien, ça va entre 8 000 et 15 000 euros l'émission, hors taxe. Mais en plus, moi, j'ai fait de la connerie à l'époque, j'ai dit combien je gagnais tout, j'aurais jamais dû dire ça, parce que on vous le reproche. En Amérique, quand vous dites vous êtes riche, on vous dit bravo, et quand en France vous dites vous êtes riche, on vous dit qui vous avez volé. Donc, vous méritez pas, ou c'est compliqué en France. C'est d'ailleurs, vous avez bien vu, les grosses stars de télévision, elles vous parlent, c'est elles roulent en Twingo, elles ont leur bateau, c'est un Zodiac, elles vont en vacances avec notre Lezout, ils nous prennent vraiment pour des bananes. C'est cette hypocrisie-là, en revanche, commence à me gonfler, ça, je vous le dis, moi. Non, mais ça va. Arrêtez de nous faire croire. Non, mais les mecs, les donneurs de leçons, qui gagnent, alors là, entre 3 et 5 millions d'euros par an.
Qui?
Non, je vous laisse lancer vos propos. Mais arrêtez. Mais comme certains ont la carte, d'autres l'ont pas, alors on vient faire chier certains et pas d'autres. Menez l'enquête. Et vous verrez que 1 ou 2 millions d'euros par an, c'est énormément d'argent, mais aujourd'hui, certains gagnent beaucoup plus.
Et puis vous en êtes revenu vous-même, vous n'êtes plus à ce niveau-là.
C'est-à-dire que je les ai perdus surtout.
C'est ça, parce que vous avez connu des très hauts, mais aussi des très bas. 2012, c'est une escroquerie qui vous laisse quasiment sur la paille.
Ah, pas quasiment sur la paille, c'est ah, puis alors quand ça dévisse à une vitesse.
Mais vraiment, vous avez tout perdu à ce moment?
Ah, tout, mais je vous le dis, ça a duré quelques temps, quelques semaines, mais vous avez la carte bleue, vous sortez pas 20 balles. Et c'est pas des blagues, je dis pas ça, je me plains pas, je suis très heureux, ça m'a servi de leçon. Quand votre banque elle vous dit c'est fini, votre carte elle ne fonctionne plus, voilà, terminé, dégagé.
Même quand on a eu une jolie cagnotte comme celle que l'on évoquait tout à l'heure.
Bah moi ma cagnotte, je ne suis pas l'écureuil, donc j'ai pas été très prévoyant, mais je pensais l'avoir été en achetant différentes choses. Mais après quand ça dévisse, on vous prend la maison, on vous prend les bagnoles, on vous prend les meubles, on vous prend.
Ça allait jusque là, jusqu'à des saisies.
Bien sûr, bah oui, ça c'est, j'adore les huissiers. Non mais c'est vrai. Il y a une époque, je retenais le frigo d'une main et la télé de l'autre. Hein.
Et puis c'est difficile de le dire parce que évidemment tout le monde s'imagine.
Alors oui,
c'est du fait de vos déclarations précédentes que vous êtes sur un tas de
cartes. J'ai fait le mariole au préalable. D'abord, il y a ceux qui disent c'est bien fait pour sa gueule. Bon, ça c'est normal, c'est de bonne guerre. Et puis surtout, tout le monde pense que j'ai caché des lingots d'or sous mes oreillers. C'est plutôt des lingots de plomb que j'ai mis sur mes oreillers plutôt que des lingots d'or. Donc non, c'était après ça vous forme. Après je suis très heureux, tout va bien. Voilà.
Peut-être que ça vous a appris la méfiance, cette escroquerie justement. Maintenant on ne peut plus vous la faire à l'envers. Pour reprendre cette expression si bien expliquée précisément par un candidat, souvenez-vous de Secret Story.
Tu la feras pas à l'envers, Yoann. Parce que moi si tu me la fais à l'envers, je te la fais encore plus à l'envers. Et limite je vais te la remettre à l'endroit, tu vois.
Le temps de vous laisser méditer cette pensée philosophique.
Et on
se retrouve pour les infos télé de la semaine avec Germain Sastre. À tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard. Jade, Eric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
On refait l'actu télé.
Bonjour Germain Sastre.
Bonjour Eric, bonjour Jade.
Bonjour Germain.
Bonjour
à tous. Comment va-t-il le Germain Sastre ce
bien
samedi?
Bah
écoutez, pas mal, mais vous allez avoir du fil à retordre, je pense, avec notre invité du jour, Benjamin Castaldi, parce que vous savez, dans cette rubrique des infos télé la semaine en partenariat avec Télé Loisirs, eh bien, on va tester votre connaissance en actu média, Benjamin Castaldi, et vu qu'il est tous les soirs dans Touche pas à mon poste, je pense qu'on va avoir du mal à le coller quand même. Bon, on essaie quand même. Benjamin vous donne des infos, mais aussi des intox. Vous nous dites si vous y croyez ou pas.
La prochaine édition de Pékin Express sera en effet très express. Il n'y aura qu'un seul numéro, car le tournage a dû être interrompu à cause de l'épidémie de Covid. Benjamin, vous y croyez ou pas?
Mais non, méga express.
On résume la question.
C'est de la toque,
Vous avez raison, effectivement, c'est faux. Hein. La 14e saison dont on vient d'apprendre qu'elle débutera le 23 février sur M6 comptera autant de numéros que les précédentes. Et ce, malgré de nombreuses péripéties pendant le tournage. Il avait débuté en Ouganda au printemps dernier, mais a dû être interrompu à cause de la crise sanitaire, forcément. Il devait ensuite se dérouler en Éthiopie et à Dubaï, mais les candidats ont dû être rapatriés d'urgence avant la fermeture des frontières. Et c'est finalement en Grèce et en Turquie que la course a pu se dérouler, mais avec deux candidats en moins à cause d'un accident de voiture.
Bon, ouais, en tout cas, Pékin Express, c'était plus à Pékin, en fait.
Non, ça fait longtemps que c'est plus à Pékin. Hein. C'est comme le Paris-Dakar. Hein.
C'est bien empire. C'est Pékin quelque part.
Oui, mais c'est comme 7-8 sur TF1 qui commence à 17h30.
Voilà.
Espérons en tout cas pour cette nouvelle saison de Pékin Express qu'ils auront des binômes aussi soudés que d'habitude.
Seuls les Corses cherchent toujours un véhicule.
Mais il y va, putain, faut trouver une voiture.
Toi, il y a un bus.
Mais je m'en branle du bus, moi aussi, je suis devant le bus.
Il y a le feu qui est vert, Denis, il y a le feu qui est vert. Arrête de crier,
C'est là que je me dis que Jean-Pierre Castaldi aurait pu faire Pékin Express. Oui. Il aurait été parfait.
Moi, je fais. Mon père, on s'insulte au bout de deux jours, c'est sûr.
Vous avez donné l'idée à la prod, ils vont vous appeler. Allez, deuxième info à vérifier.
Alors, le comité d'organisation de l'Eurovision a tranché. Aucun candidat n'aura le droit de se produire avec des danseurs lors de la prochaine édition du concours. Et ce, afin de respecter, bien sûr, la distanciation sociale sur scène. Benjamin dit que c'est de l'intox.
Très bonne réponse, Benjamin. Effectivement, c'est faux.
Il est incollable.
On ne va pas le coller. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'Eurovision ne pourra pas se dérouler dans des conditions normales. Après une réunion mercredi, eh bien, les organisateurs étudient actuellement 3 scénarios. Alors, au mieux, des mesures strictes avec des tests fréquents, des prestations préenregistrées pour un certain nombre d'artistes et un nombre de spectateurs limité dans la salle. Et dans le pire des cas, eh bien, un Eurovision confiné. En clair, pas d'artistes, pas de public à Rotterdam, juste des présentateurs pour lancer des prestations enregistrées. Tout dépendra, oui, ça va être un peu bizarre. Tout dépendra, bien sûr, de l'évolution de la situation d'ici le mois de mai.
Et évolution aussi de la situation pour les Victoires de la Musique, dont on avait dit qu'elle pourrait se dérouler en public et que ça ferait office de test, d'ailleurs.
Oui, c'était de l'intox.
Et bien, finalement, la préfecture des Hauts-de-Seine a indiqué qu'il refusait la présence de public dans la salle des Victoires de la Musique. Et un autre événement musical nous attend, Germain.
Exactement, un événement musical international aura lieu, lui, dès demain soir. Est-ce que vous savez de quoi je veux parler?
Dimanche à lundi.
Dimanche à lundi aux États-Unis.
C'est du sport, mais de la musique aussi.
C'est du sport, mais c'est pas le Super Bowl.
Exactement, le fameux concert du Super Bowl assuré cette année, par The Weeknd, à voir en direct sur la chaîne L'Équipe, qui diffusera le match et le show en direct dès 23h55 avec notre camarade d'RTL2, Grégory Achard, à la présentation.
Allez, dernière info ou dernière intox.
La chaîne de la TNT RMC Story va bientôt consacrer une enquête à Loana. Ça vous semble crédible, Benjamin Castaldi?
Vous n'avez pas de bol, c'est un ami à moi qui produit le documentaire, c'est Jean Tonprod. J'ai même participé au portrait.
Ah bon, voilà. Alors Germain, tout n'est pas permis. Germain, on explique
un petit peu pour les auditeurs.
Oui,
effectivement, c'est vrai, RMC Story va lancer un nouveau rendez-vous mensuel présenté par Rachid Mbarki, déjà à la tête de Faites Entrer l'Accusé. Le programme s'appellera La Face Cachée 2 et sera diffusé dès le mois de mars en prime time. Le premier numéro sera consacré à Éric Zemmour et puis en avril, comme vous le disiez, l'émission proposera une longue interview exclusive de Loana pour raconter son parcours à l'occasion des 20 ans de Loft Story.
Ah, vous dites à l'ancienne, vous, Loft Story.
Ouais,
c'est pas casser les pieds à l'époque. Il faut dire Loft Story.
Vous voyez, il est jeune, mais il est à l'ancienne.
C'est une aberration.
Mais moi, j'ai grandi avec
Bienvenue dans Loft Story.
Avec un E à la fin.
Non, mais n'importe quoi.
Plus sérieusement, Loana, première victime de la télé-réalité. Vous êtes d'accord avec ça, Benjamin Castaldi?
Ah, c'est en tout cas une victime collatérale, évidemment. Après, c'est toujours pareil. On met le pied à l'étrier à des jeunes. S'ils ne savent pas monter à cheval, c'est malheureusement pas notre faute. Mais je trouve qu'on ne l'a pas aidé suffisamment, ça c'est sûr. Elle étant la première, etc. Et ça a quand même permis à beaucoup de gens de gagner beaucoup d'argent et de on aurait pu avoir un peu plus de compassion pour elle, je trouve. Mais moi le premier d'ailleurs. Mais moi je suis, pour le coup, je suis ni producteur ni rien. Donc c'est pas vraiment de ma faute.
Est-ce que par la suite on en a eu davantage pour les candidats des autres télé-réalités que vous avez pu présenter?
Non mais après il y avait plus de phénomène. Et puis après on a eu des candidats qui étaient des candidats, mais c'était des pros. Maintenant, c'est devenu un métier. Quand on dit métier, votre quoi, métier, je suis candidat de télé-réalité.
Mais Loana a quand même été victime de
Loana,
système.
Après Loana, c'est toujours pareil. Je pense qu'elle a été très mal entourée. Je pense que ce métier, vous avez des tas de top de vilaines tentations dans ce métier qui sont essentiellement la cam et la fête et l'alcool. Et que si vous faites un détour par ces chemins-là, si vous n'êtes pas entouré, parfois vous en venez pas. Et Loana, elle est tombée dans c'est la tête à première, quoi.
Pour revenir à cette émission d'enquête d'RMC Story, je leur conseille de faire aussi, par exemple, Gérard Depardieu, parce qu'il est en très grande forme en ce moment.
Ah oui.
Je sais pas si vous l'avez vu lundi soir chez Claire Chazal, Benjamin Castaldi.
Non, j'ai pas vu.
Du grand Depardieu, on vous a fait une petite compilation.
D'où vient cette curiosité?
Ça vient des autres. Il y a tellement de cons qu'on est obligé de s'intéresser, de se dire, mais c'est pas possible d'être aussi con. Un acteur, c'est pas un mec qui joue un rôle. Celui-là est un con. C'est pas Lucchini qui fait son lumière. Ça, c'est chiant. Parce que même le public s'emmerde. Il n'y a rien, il n'y a pas de vaccin. Je suis allé dans un EHPAD, ils n'ont pas voulu de moi. Sinon, vous êtes en bonne santé.
D'accord.
Je dis, mais non, je suis vieux, j'aurais dit. Voilà.
On retiendra donc que Gérard Depardieu s'est pointé dans un EHPAD pour se faire vacciner comme si c'était en entrée libre. Ouais. Tranquille, quoi. C'est Gérard Depardieu, on ne changera pas.
Il peut tout faire.
Merci beaucoup, Germain Sartre.
Merci à vous.
11h30, midi et demi, on fait la télé avec Benjamin Castaldi sur RTL. À tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
On se retrouve dans un instant pour continuer à refaire la télé avec Benjamin Castaldi, notre invité ce matin, qui a fait de la radio, qui aimerait beaucoup refaire, je crois d'ailleurs.
Écoutez, oui, je lance un appel.
Mais attendez, vous allez en faire de maintenant?
Qu'est-ce que je fasse?
Vous allez nous faire le top horaire?
Allez-y.
Est-ce que ça vous chauffe de faire le fameux top horaire d'RTL?
Je suis sûr que le reste.
Tout le monde a
juste annoncer l'heure,
il est dit.
Allez-y. Vous écoutez RTL, il est midi.
Merci Alexandre. Jusqu'à 12h30, on refait la télé avec Benjamin Castaldi pour son livre sur Yves Montand et Simone Signoret. Je vous ai tant aimé.
Ce qui me rappelle, Benjamin, qu'un candidat de Secret Story nous avait fait quant à lui de sacrées révélations sur une autre illustre Simone.
Qui a écrit Les Fleurs du Mal.
Oh, alors, comment il s'appelle lui? Simone Veil.
Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup d'infos.
Comment il s'appelle lui, Simone Veil?
Simone Veil était donc un homme et qui a écrit pour Baudelaire. C'est beaucoup.
Pas mal.
Honnêtement, Benjamin Castaldi, ce genre d'énormité là dans les téléréalités, c'est écrit, non?
écoutez, là, ils en sortent tellement des formules. Il y en a quand même parfois, je pense que oui, c'est pas possible. Voilà, ils sont vraiment, vraiment.
Nous aussi,
vraiment,
on l'espère.
Benjamin, à votre tour de taper 1 ou taper 2, vous allez devoir choisir ce que vous allez regarder à la télé. Ah.
Le plateau télé de l'invité.
Deux programmes au choix à chaque fois. On va commencer avec ce soir.
On vous propose le lancement de la 10e saison de The Voice sur TF1 ou alors une toute nouvelle série sur la chaîne TMC. Ça s'appelle Columbo. Qu'est-ce que vous regardez?
J'ai honte, mais je regarde Columbo toutes les semaines. Ah ouais. Je suis parti des 900 et quelques mille. Il faut un carton. Hein. Je pense que c'est le coup de riz le plus faible de l'histoire de la. Parce qu'il fait, c'est pas que c'est amorti, Columbo s'est rincé. Hein, il paye ça 10 balles.
Ah bah, l'impair, il est payé là.
Parce que c'est 10 balles.
Je sais pas, je pense qu'on doit être à 2000 euros de l'heure.
The Voice, vous auriez pu y aller comme.
The Voice, les loups. Oui.
Vous auriez pu y aller comme candidat, Benjamin Castaldi, vous chantez très bien.
Non.
Si.
Non.
Ah si. Bah, une fois à la télé, vous avez même chanté avec un coach de The Voice Kids, justement, Patrick Fury. Vous voyez le dossier ou pas? Pour le site d'action.
Ah oui, pour le site d'action. Ah oui, pour le site d'action. Qu'est-ce que j'ai chanté?
Oh, c'était bien. Un grand classique de la chanson française.
Vieille canaille.
Un footballeur.
Mieux que ça. Jean-Pierre François.
Ah.
Je te survivrai.
Oh merde.
Je te survivrai. Je te survivrai.
Non, c'est pas génial.
Attendez, on en
profite. Ça manque de technique.
On écoute, s'il vous plaît.
Ouais, non, ça passe.
Passe.
Non, ça
vous
passe.
Auriez cartonné avec ça, The Voice.
Pas sûr qu'ils seraient tous retournés sur moi, quand même. J'ai un doute.
Par curiosité. The Voice, lancé en 2012, alors que vous êtes sur TF1, Benjamin Castaldi. Vous avez déjà présenté à cette époque-là Nouvelle Star sur M6. Il y aurait eu donc une suite logique à ce que ce soit vous qui preniez les commandes de The Voice. Pourquoi ça vous est passé sous le nez?
Parce que je n'étais plus en odeur de sainteté. C'est pas faute de l'avoir demandé à l'époque. Hein. Je l'ai réclamé à corps et à cri. Et ils l'ont donné à Nikos, ils ont bien fait d'ailleurs.
Pourquoi vous étiez plus en odeur de sainteté?
Je crois que j'ai eu un accident de moto qui les a contrariés. J'ai donc disparu de l'antenne. Je commence à avoir des problèmes, moi, financiers très importants. Donc j'ai des huissiers qui doivent arriver à TF1. J'ai le salaire qui est saisi. Ça fait mauvais genre.
Vous les inquiétez?
C'est exactement ça. Je les ai inquiétés. Ce qui est assez logique. Hein. On n'aime pas le malheur. Hein. Donc je les ai inquiétés et très logiquement, ils m'ont pas du tout fait confiance pour ça. Franchement, j'aurais adoré le faire. On va pas se mentir. Moi, je suis pas de ceux qui crachent dans la soupe. J'aurais adoré le faire. Ils ont pris Nikos, ils ont bien fait, mais de toute façon, c'était normal, parce qu'avec Nikos, on s'est évidemment tiré la bourre à l'époque, et voilà, de toute façon, il y en avait un de trop sur la chaîne.
Et est-ce que Secret Story n'avait pas abîmé votre image aussi?
C'est sûr que de toute façon, ça m'a rangé dans une catégorie. On va pas se mentir, j'étais pas dans la catégorie des intellos.
Et là, il s'agissait avec The Voice de faire quelque chose de très papier glacé.
Non, il fallait faire chic.
Voilà.
J'étais pas assez chic, moi. C'est-à-dire que je sentais trop la foufou dépasser le savon.
Ah, c'est vrai que si vous avez dit ça, je comprends. Vous avez dit que vous étiez pas assez chic. C'est l'expression de Nouvelle Star, cela dit. C'est André Manoukian.
J'aime beaucoup cette expression.
Allez, autre choix télé.
On sait qu'à 19h, vous êtes en direct dans Touche pas à mon poste. Donc, ça va être un choix en replay entre deux programmes diffusés justement à 19h. Pour vous, ce serait plutôt Castaldi ou Castaldi? TPMP avec vous sur C8 ou votre fils dans Les Princes et Princesses de l'Amour sur W9.
Il faut, j'ai pas encore vu.
Ah, vous l'avez pas vu encore?
Non, pas encore.
Bah, attendez, parce que nous on a un petit extrait, on a son arrivée.
Oui. Ah oui.
Tu vas bien?
Très bien, je suis très content d'être là, ça fait longtemps que j'attends. Je m'appelle Simon Castaldi, donc fils de Benjamin Castaldi, ça on le sait, mais bon, voilà, on va poser les bases comme ça c'est dit. Donc il sait que je suis ici, il en est vraiment fier et je vais lui prouver que je suis un homme, malgré mes petits travers. Je sais qu'il est fier de moi et je l'aime. Voilà, papa, je t'aime.
Oh, c'est mignon.
Vous êtes vraiment fier qu'il fasse cette émission?
C'est quoi le but de votre question, monsieur?
Allez au bout de votre idée. Qu'est-ce que c'est?
Vous qui connaissez la télé-réalité, Benjamin Castaldi.
Allez au bout de votre idée.
Comment vous avez pu lui conseiller?
Donnez-moi la télé-réalité. Moi de cette question-là, con.
La question, elle est là.
Alors, allez-y.
Comment vous qui connaissez si bien la télé-réalité, ses travers, vous avez pu lui conseiller de participer à une télé-réalité?
Alors, je vais vous dire pourquoi. Je vous rappelle que le contexte sanitaire, c'est quand même le bordel en France. Les étudiants ne vont plus en faculté. Mon fils était étudiant. Il était confiné à la maison. Dans un état, comme beaucoup d'étudiants, je vais vous dire la vérité, mal. Parce que pouvons plus aller en cours. À 20 ans, ne pouvons plus sortir. Ayant plus vraiment d'objectifs. Il avait choisi un truc de sport management. On sait que dans le sport, ils vont mettre 10 ans à s'en remettre. C'est-à-dire qu'avant qu'ils prennent des mecs dans les équipes de foot et dans le merchandising, ils vont morfler 5-6 ans. Donc le tableau de sa vie, honnêtement, était noir. Il est beau, il est intelligent, il a un père qui a fait de la télé-réalité, qui a la chance de connaître pas mal de productions dans Paris, donc je pense que s'il y a un problème, je saurais le défendre et le protéger. Donc, il m'a dit, j'ai envie de faire ça, c'est l'occasion pour lui de se faire connaître. Et franchement, s'il peut gagner sa vie sur les réseaux, faire des photos et à se faire une vie un peu confortable, et ben, franchement, il a bien raison. Donc, il a bien fait de faire ça et ça va lui ouvrir une porte. Voilà.
On reprend votre plateau télé, autre choix.
On passe maintenant à la télé de mercredi prochain. Sur M6, ce sera le lancement de la 12e saison de Top Chef. Mais vous préférez peut-être regarder La Grande Librairie sur France 5.
Je déteste Top Chef.
Vous êtes l'un des rares.
C'est parce que vous êtes au régime.
Vous ne vous lâchez pas les babines comme des millions de téléspectateurs.
Bah non, je me lâche pas les babines. Moi, c'est une nana. Je préfère la voir en vrai qu'à la télé. Donc c'est pareil pour la pâtisserie.
Vous êtes frustré, quoi.
C'est un peu frustré.
Frustré, c'est pour ça.
La Grande Librairie sur France 5. Vous pensez qu'ils vont vous inviter pour votre livre?
Je pense que je ne sens pas assez le savon et trop la foufoune.
Ça commence. Il y a quand même un sacré écart entre ce que les gens perçoivent de vous, Benjamin Castaldi, l'animateur télé-réalité et divertissement. Est-ce que vous êtes aussi, à savoir, un passionné de culture, de cinéma, de littérature? Je me souviens par exemple de vos excellentes interviews à la radio. Ça vous pèse pas parfois ce décalage?
J'adore. Plus je grandis, plus je vieillis maintenant. Je peux vous dire que je grandis, plus ça me fait marrer. C'est très drôle de voir.
Ça vous amuse qu'on ait une image caricaturale de vous, en fait?
Ça m'amuse. Parce qu'en fait, vous rencontrez des gens qui pensent être très supérieurs à vous. Et qui généralement s'effondrent au bout de 5 ou 6 minutes de discussion tellement ils sont incultes, tellement ils sont bêtes. Et il n'y a rien de plus facile à déceler que la bêtise. Et à contrarier aussi. Moi j'ai eu longtemps cette image d'un abruti fini, un con, inculte. Mais en fait, moi je suis comme ça, je fais pas d'effort. Je suis provocateur. En diable, je peux être odieux. Quand je sais qu'on m'aime pas, je peux être vraiment un salopard, quoi. Et en rajouter des caisses et être dans la provocation. Mais je fais exprès. Ça m'a joué des tours. Je suis plus comme ça. Hein. Mais moi j'étais dans la provoque tout le temps. Un peu rebelle, quoi. Et c'est pas bien d'être comme ça. Ça me faisait rire, mais c'est idiot parce qu'au final, c'est moi qui l'ai payé parce que j'ai eu une image qui m'a plus desservi qu'autre chose.
La Grande Librairie, on l'évoquait à l'instant, on va écouter un extrait de son ancêtre.
Oui, apostrophe, l'émission de Bernard Pivot.
J'ai pu la voir, cette émission.
Ah, bah oui.
On a
justement retrouvé un extrait assez incroyable avec votre grand-mère, Benjamin Castaldi. C'était en 1979. Ce jour-là, Simone Signoret avait répondu aux rumeurs qui disaient qu'elle n'avait pas écrit son premier livre.
Bon, un jour, j'ai mis ma radio bêtement, comme ça, avant de descendre sur le plateau, et j'ai entendu des gens dire que mon bouquin, la Nostalgie, c'était pas moi qui l'avais écrit. Bon, j'ai essayé de comprendre leur démarche, mais seulement cette passion sur moi, ça tombait mal, parce que
moi, j'avais écrit.
Bon. Alors, il n'y aurait pas eu cet incident, j'aurais quand même écrit ça.
Oui,
j'aurais écrit de toute façon.
Votre grand-mère, évidemment, vous la regardiez quand elle passait à la télé, que vous étiez petit, Benjamin, même que ça vous a valu une fois une sacrée frayeur, hein, je crois, devant l'armée des ombres.
Ah, mais c'est pas une frayeur, je crois qu'elle était morte.
Ah, bah oui.
Forcément.
Oui.
Bah, quand on a 5 ans et qu'on voit un film et qu'à la fin du film, on baisse sa vitre et qu'on vous prend un coup de pistolet, pan, t'es mort, hein. J'ai eu très peur. Il a fallu qu'on appelle ma grand-mère, qu'elle me rassure en disant qu'elle n'était pas morte, que c'était pour jouer un rôle, etc.
Après les choix télé de Benjamin Castaldi, celui de la rédaction de Télé Loisirs avec Rémi Jacob. Bonjour Rémi.
Bonjour Jade, bonjour Eric, bonjour à tous.
Bonjour Rémi.
Vous allez nous parler de la grande soirée organisée ce soir sur France 2 au profit du Secours Populaire.
Exactement, grande soirée caritative. Alors c'est en prime, ça va se passer au Cirque d'Hiver à Paris. Ça va être présenté par Daphné Burki, l'animatrice, qui est d'ailleurs, il faut le savoir, l'une des marraines depuis très très longtemps du Secours Populaire. Ça sera en direct et franchement sur le papier, ça donne envie, puisque vous avez une quarantaine de grands artistes qui vont venir chanter et jouer des sketchs. Un très très joli casting, ça va de Vanessa Paradis à Michel Jonas en passant par Jean Dujardin et Catherine Ringer. Bref, un grand show, un grand spectacle qui vise à collecter le maximum de dons pour le Secours Populaire.
Je crois qu'il y aura même une grande tombola avec des lots très originaux proposés par les artistes.
Mais oui, c'est très très drôle, vous allez pouvoir participer à une grande tombola, c'est très simple, pour seulement 2€, vous achetez un ticket, ça se passe sur le site tombola.secourspopulaire.fr et alors, vous aurez peut-être la chance de gagner par exemple le fameux micro d'argent de N'oubliez pas les paroles, vous savez que vous voyez dans le jeu de Nagui, il y a aussi, alors ça je trouve ça incroyable, une visite guidée, tenez-vous bien, de la maison de Serge Gainsbourg effectuée par sa fille Charlotte, rien que ça, ou encore le célèbre avion de Barbie qu'on adore de Florence Foresti qui sera dédicacé par l'humoriste et tout ça sera donc à découvrir ce soir sur France 2.
Merci beaucoup Rémi Jacob. Benjamin Castaldi, vous avez passé des années à essayer de percer les secrets de vos candidats. candidats dans Secret Story. À notre tour de faire la même chose avec vous. Place aux rumeurs.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
Fait la télé.
Le c'est ce qu'on dit.
Le c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit sur vous, Benjamin Castaldi. Des rumeurs. Dites-nous si c'est de l'info ou de l'intox.
On dit que TF1 aimerait bien vous faire revenir à la maison. Vrai ou faux?
On a une petite réponse.
Alors, ça, c'est le côté de l'intox.
Ah, je pense qu'avant que je revienne sur TF1, il va se passer du temps, je pense.
L'histoire est définitivement terminée, vous diriez?
Bah, faut jamais dire jamais, mais je vois pas comment TF1, honnêtement, aujourd'hui, d'abord, ils sont agacés parce que je parle de télévision. Et d'ailleurs, bah, si, ça, c'est important. Ils sont persuadés qu'on est mandaté pour dire du mal des émissions de TF1. C'est faux. C'est archi faux. Il y a plein de trucs sur TF1 que j'adore, moi. Plein. Maintenant qu'il y a des trucs qui nous plaisent pas, voilà.
Et vous parlez aussi de ce que vous adorez sur TF1?
Bien sûr. Moi, d'abord, parce que j'ai l'émission du vendredi, et puis Cyril nous a jamais demandé de fracasser TF1. C'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine. Il y a un petit contentieux avec Arthur. Mais c'est pour l'histoire. Maintenant, je veux qu'on dise, quand District Z perd 75% de son audience, vous voulez qu'on dise quoi? On peut pas dire que c'est formidable. Mais moi, il y a des tas de trucs qui fonctionnent très bien sur TF1 et qui sont très bien, et quand c'est très bien, on le dit d'ailleurs.
Ce retour sur TF1, ça pourrait être par exemple parce qu'il y a cette petite musique en ce moment, on évoque un possible retour de Secret Story. Déjà, est-ce que vous en avez entendu parler? Et est-ce que vous, ça vous amusera encore?
Non, je le referai pas. Je le referai pas. En plus, mon camarade le fait très bien.
Christophe Beaugrand,
que j'avais d'ailleurs à l'époque largement encouragé à choisir. J'avais largement dit qu'il fallait qu'il me remplace. En plus, il fait très bien ça. Il a une qualité, c'est qu'il arrive à mener ça. Et il est très bon sur LCI.
Avec le brunch de l'info,
il est très très bien. Non, je pense qu'ils me rappelleront pas pour faire Secret Story. C'est sûr que non.
L'idée d'y retourner, ça vous tente pas plus que ça?
Vous savez, dans ce métier, je dois à deux personnes. Beaucoup, je dois à Drucker qui m'a fait commencer, et je dois à Hanouna qui m'a récupéré. Et dans un état d'ailleurs psychologique et mental pas forcément le mieux du monde, parce que pour un animateur, quand vous êtes au rancard, c'est on a beau dire qu'on s'en fout, on s'en fout pas du tout. Donc ce sera compliqué pour moi de, si je devais partir, faudrait que ça se fasse, et c'était d'ailleurs le cas quand j'ai quitté Michel, parce que c'était comme si je quittais mon père, et là ce serait un peu comme si je quittais mon frère. Il faudra que ça se fasse d'un commun d'accord, c'est-à-dire que faut qu'on soit dans une honnêteté où lui me dise voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question et va-t'en, entre guillemets, moi, de moi-même, lui faire le coup de me barrer, je pense que je le vivrais moi très mal.
Aujourd'hui, vous êtes chroniqueur dans Touche pas à mon poste, vous assurez aussi la présentation de l'émission le vendredi. Ça vous suffit? Vous rêvez plus de votre propre émission, parce que vous avez animé tellement de grands barnums.
Mais le grand barnum me manque. Mais il n'est pas impossible que le grand barnum réapparaisse un jour sur C8 ou sur une chaîne du groupe. On sait jamais.
Vous en parlez avec eux, ça? Vous avez des envies, des projets?
En tous les cas, j'ai des envies et des projets. Et puis aujourd'hui, je vais vous dire, moi, chat est chaudé, craint l'eau froide. Maintenant, j'ai plus le droit tellement de me gourer. Donc, parce que mine de rien, les années passent. Donc, il me reste 10, 15 ans, 10 ans. Moi, ce qui me fait toujours rigoler, c'est que j'ai quasiment l'âge de Drucker quand il avait commencé celui de Gabriel, à peu près. Je crois qu'il est venu, il était un peu plus vieux, je crois.
Donc vous dites quoi? Le meilleur est à venir?
Il va y avoir un petit retour de flamme sympa. Maintenant, c'est avec de la patience et du sein doux, un éléphant enfile la peau.
C'est beau, ça aussi. Vous voyez, c'est la foufounée de ça. Hein, par exemple.
Ça, on va le garder, voyez.
C8, vous avez aussi présenté des jeux.
Puisqu'on a retrouvé un bel extrait de Family Battle, une nouvelle version de La Famille en Or que vous avez présentée, en effet, sur C8. Et ce soir-là, vous aviez eu de gros, gros soucis de fiches.
Attention, que seriez-vous prêt à faire pour entrer dans une boîte de nuit dont l'entrée vous est refusée? Ah, alors on m'a inversé, c'est pas la bonne fiche. La manche 1, c'est donc pas ça du tout. Elodie, agent de sécurité?
Pas du tout.
C'est pas ça. Ça, c'est la magie du direct, donc moi je vais être bon, je prends ma fiche. C'est ça, j'ai pris la mauvaise fiche, alors c'est ça. Oui.
Les aléas du direct, c'est la pire galère qui vous soit jamais arrivée pendant un direct ou même une émission que vous enregistriez d'ailleurs?
J'en ai eu tellement des galères. Ce qui est fort sur C8, c'est que comme on est tout le temps en direct, y compris pour faire des jeux, donc des galères, on en a tout le temps.
la galère qu'on y a souvent assez vite, c'est que l'émission commence et on ne sait pas quand elle a commencé. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est le vendredi, je lance le générique dans une espèce de bordel, voilà, et on, j'entends, vous êtes à l'antenne. Ah bah, très bien, vous êtes à l'antenne, donc on va y aller. Moi, j'adore. C'est une autre façon de faire de la télévision, mais c'est, ça décomplexe vachement. C'est-à-dire que moi, qui ai toujours été dans un cadre quand même très rigide d'animation et TF1, voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour la déconne, quoi, on va pas se mentir. En tout cas, il faut l'apprendre. Moi, je l'apprenais, mais en plus, on me le reprochait. Mais sur C8, on fait ce qu'on veut. Hein.
Autre rumeur, certains disent que ce n'est pas vous que l'on voit dans la fameuse pub télé pour un programme minceur, mais votre sosie, ce qui vous permettrait de continuer à manger tout ce que vous voulez.
C'est connerie, là.
Vrai ou faux, Benjamin Castaner?
C'est une rumeur, ça, vous êtes de ma gueule. Mais non, moi, j'ai un huissier tous les mois qui vient me peser.
C'est vrai cette histoire, vous avez un huissier qui vient tous les mois pour vous peser souvent.
Je peux pas reprendre deux poids. La rémunération est faite de...
Sur kilo?
Non, c'est pas au kilo.
Au kilo perdu.
Mais vous avez pas, je crois que par contrat, je dois pas faire plus d'écart de 2-3 kilos, je crois.
Ah oui.
Alors, je sais pas si vous le savez, Benjamin, mais avec Laurent Gérard, mon complice tous les matins, eh bien, on vous parodie souvent.
Cette publicité. Et ça, c'est vraiment le signe que vous êtes au poteau des gens connus. Mais quand vous commencez à être parodié, sans déconner.
Par Laurent Gérard, ouais, c'est un hommage.
C'est une médaille.
Ah, voilà. Ouais. C'est une médaille. Ça vous fait rire, quand même.
J'adore Laurent, j'ai commencé avec lui. Donc j'adore Laurent.
Alors ça va, on peut balancer l'extrait. Allez-y.
Et maintenant, une page de publicité avec Benjamin Castaldi.
Ah, pendant les fêtes, j'ai mangé de tout, comme j'aime. Et j'ai pris 13 kilos. Les féculents, les graisses, le foie gras, ça marche vraiment. Mais mon partenaire, ma sœur, comme j'aime, n'est pas très content. J'ai perdu 500 000 boules. Et ça, j'aime pas ça. Parce que comme j'aime, ils viennent de m'envoyer leur suppositoire détox, comme j'aime. Ça a l'air vraiment efficace. Il faut que je vous laisse, là.
C'est une autre méthode. Bon, écoutez.
Non, mais ça, typiquement, pendant les fêtes, c'est un stress. Parce qu'on dit, putain, Lucie, il va arriver le 4 ou 5 janvier.
Bon, vous fichez la paix pendant les fêtes, quand même.
Non, ils ont été cool pendant les fêtes. Ça va.
Bon, bonne nouvelle, vous avez droit à un dessert maintenant. Une madeleine, mais de Proust. Vos meilleurs souvenirs télé en termine d'émission avec ça.
De Proust.
Attention. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
Claude Drucker, il nous a pas habitué à ça, Michel.
On l'a jamais vu fondre l'armure.
On l'a jamais vu fondre l'armure comme ça. Et moi, je le connais très bien, Michel. Je l'ai quasiment tous les jours au téléphone. Donc,
Et on l'embrasse d'ailleurs, si on l'embrasse.
C'est vrai que là, mais je crois que c'est une, je pense qu'il s'est, enfin, même pas, il me l'a dit d'ailleurs, c'est que c'est l'accumulation. Il en a perdu des copains, Michel, depuis, parce que Michel, il a 78 ans. Donc, je pense que là, c'était le copain de trop, quoi. Il en a enterré beaucoup. Mais c'était bouleversant. Mais en plus, quand on voit, là, pour le coup, quel talent. Il a fait 2 heures d'hommage. Il est pas au rompteur, Michel, hein. C'est tout à l'affiche, hein.
Ouais. Et puis là, on peut imaginer que c'était en impro, en plus, puisque c'était dans les heures qui ont suivi.
Il craque à la fin et c'est magique. Ça restera un grand moment de télé.
Ouais. On va terminer avec un autre extrait de Michel Drucker, mais on va rire cette fois puisque vous nous avez demandé la fameuse rencontre Whitney Houston, Serge Gainsbourg.
Ça faisait longtemps, les deux.
Oui.
Mais on s'en lasse pas.
On nous le demande à peine, celui-là.
On s'en lasse jamais.
C'était sur le plateau de Champs-Élysées.
He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie.
J'ai pas dit ça, je vous ai baisé.
I said I want to fuck her.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non. Donc, he said you are great. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Pas du tout, j'aurais dû l'apaiser.
Il a dit.
Serge Gainsbourg, moi, j'ai
imaginé 2 secondes ça. Aujourd'hui.
Ah bah ça s'enflammerait.
C'est pas que ça s'enflamme. C'est plus possible.
Ouais, ça n'arriverait plus de toute façon. Ouais.
Bah c'est bien dommage.
Benjamin Castaldi, merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Merci d'être venu refaire la télé avec nous. On rappelle le titre de votre livre sur Simone Signoret et Yves Montand, Je vous ai tant aimé, qui sort mercredi. C'est aux éditions du Rocher. Dès maintenant, vous pouvez le gagner dédicacé par Benjamin Castaldi, bien sûr, sur le compte Twitter d'En Refait la télé.
Merci beaucoup, Benjamin.
Merci beaucoup, à bientôt.
Jade, on se revoit samedi prochain à 11h30.
Avec joie.
L'appli RTL pour le replay de cette émission. En plus, c'est une toute nouvelle version avec plein de nouveautés, donc à découvrir ce week-end. On vous laisse avec Ophélie Meunier et Plantus, son invité aujourd'hui dans le journal Inattendu. Bon week-end à tous sur RTL. Ciao, ciao.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Eric Dussard.